Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Après la libération du père de Botrelet et en même temps celle de Mademoiselle de Saint-Véran, la victoire de Botrelet sur Lupin paraît tellement acquise que la guerre entre Lupin et Botrelet semble terminée. Et même Lupin fait réapparaître Guimard et Herlock Sholmès. De même, une nouvelle inattendue se fait jour. Une annonce de fiançailles de Louis Valméras et de Mademoiselle de Saint-Véran. Comment Lupin va-t-il comprendre la chose? Qui le sait? Mais voilà qu'un journal contient un article incroyable parlant du mystère de l'aiguille creuse. Reprenons notre lecture. Nous allons tout savoir. Au début d'octobre, Botrelet, élève de rhétorique, alla reprendre à Paris le cours de ses études et préparer ses examens. Et la vie recommença, calme cette fois et sans incident. Que pouvait-il d'ailleurs se passer? La guerre n'était-elle pas finie? Lupin devait en avoir de son côté la sensation bien nette et qu'il n'y avait plus pour lui qu'à se résigner au fait accompli, car un beau jour, ses deux autres victimes, Ganimard et Herlock Sholmès, réapparurent. Leur retour à la vie de ce monde manqua, du reste, totalement de prestige. Ce fut un chiffonnier qui les ramassa quai des Orfèvres en face de la préfecture de police et tous deux endormis et ligotés. Après une semaine de complet ahurissement, ils parvinrent à reprendre la direction de leurs idées et racontèrent, ou plutôt, Ganimard raconta, car Sholmès s'enferma dans un mutisme farouche. Ils avaient accompli à bord d'un yacht l'Hirondelle, un voyage de circumnavigation autour de l'Afrique, voyage charmant, instructif, où ils pouvaient se considérer comme libres, sauf à certaines heures qu'ils passaient à fond de cale, tandis que l'équipage descendait dans des ports exotiques. Quant à leur atterrissage au quai des Orfèvres, ils ne se souvenaient de rien, endormis sans doute depuis plusieurs jours. Cette mise en liberté, c'était l'aveu de la défaite. Et en ne luttant plus, Lupin l'a proclamée sans restriction. Un événement d'ailleurs la rendit encore plus éclatante. Ce furent les fiançailles de Louis Valméras et de Mademoiselle de Saint-Véran. Dans l'intimité que créaient entre eux les conditions actuelles de leur existence, les deux jeunes gens s'éprirent l'un de l'autre. Valméras aima le charme mélancolique de Raymonde et celle-ci, blessée par la vie, avide de protection, subit la force et l'énergie de celui qui avait contribué si vaillamment à son salut. On attendit le jour du mariage avec une certaine anxiété. Lupin ne chercherait-il pas à reprendre l'offensive? Accepterait-il de bonne grâce la perte irrémédiable de la femme qu'il aimait? Deux ou trois fois, on vit rôder autour de la villa des individus à mine suspecte, et Valméras eut même à se défendre un soir contre un soi-disant ivrogne qui tira sur lui un coup de pistolet et traversa son chapeau d'une balle. Mais, somme toute, la cérémonie s'accomplit au jour et à l'heure fixée. Et Raymonde de Saint-Véran devint Madame Louis Valméras. C'était comme si le destin lui-même eût pris parti pour Botrelet et contresigné le bulletin de victoire. La foule le sentit si bien que ce fut à ce moment que jaillit, parmi ses admirateurs, l'idée d'un grand banquet où l'on célébrerait son triomphe et l'écrasement de Lupin. Idée merveilleuse et qui suscita l'enthousiasme. En 15 jours, 300 adhérents furent réunis. On lança des invitations au lycée de Paris à raison de 2 élèves par classe de rhétorique. La presse entonna des hymnes et le banquet fut ce qu'il ne pouvait manquer d'être une apothéose. Mais une apothéose charmante et simple, parce que Botrelet en était le héros. Sa présence suffit à remettre les choses au point. Il se montra modeste comme à l'ordinaire, un peu surpris des bravos excessifs, un peu gêné des éloges hyperboliques où l'on affirmait sa supériorité sur les plus illustres politiciens, un peu gêné mais aussi très ému. Il le dit en quelques paroles qui plurent à tous et avec le trouble d'un enfant qui rougit d'être regardé. Il dit sa joie. Il dit sa fierté, et vraiment, si raisonnable, si maître de lui qu'il fut, il connut là des minutes d'ivresse inoubliables. Il souriait à ses amis, à ses camarades de Janson, à Valméras, venus spécialement pour l'applaudir, à M. de Gesvres, à son père. Or, comme il finissait de parler et qu'il tenait encore son verre en main, un bruit de voix se fit entendre à l'extrémité de la salle. Et l'on vit quelqu'un qui gesticulait en agitant un journal. On rétablit le silence, l'important se rassimait, un frémissement de curiosité se propageait tout autour de la table. Le journal passait de main en main, et chaque fois quelqu'un des convives jetait les yeux sur la page offerte, c'était des exclamations. « Lisez, lisez » criait-on du côté opposé. À la table d'honneur, on se leva. Le père Botrelet alla prendre le journal, et le tendit à son fils. « Lisez, lisez » cria-t-on plus fort. Et d'autres proféraient « Écoutez donc, il va lire, mais écoutez !» Botrelet, debout, face au public, cherchait des yeux dans le journal du soir que son père lui avait donné l'article qui suscitait un tel vacarme. Et soudain, ayant aperçu un titre souligné au crayon bleu, il leva la main pour réclamer le silence et il lut d'une voix que l'émotion altérait de plus en plus ces révélations stupéfiantes qui réduisaient à néant tous ses efforts, bouleversaient ses idées sur l'aiguille creuse et marquaient la vanité de sa lutte contre Arsène Lupin. Lettre ouverte de M. Massiban de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Monsieur le directeur, le 17 mars 1679, je dis bien 1679, c'est-à-dire sous Louis XIV, un tout petit livre fut publié à Paris avec ce titre, « Le mystère de l'aiguille creuse ». Toute la vérité dénoncée pour la première fois, 100 exemplaires imprimés par moi-même et pour l'instruction de la cour. À 9h du matin, ce jour du 17 mars, l'auteur, un très jeune homme bien vêtu, dont on ignore le nom, se mit à déposer ce livre chez les principaux personnages de la cour. À 10h, alors qu'il avait accompli 4 de ses démarches, il était arrêté par un capitaine des gardes, lequel l'amenait dans le cabinet du roi et repartait aussitôt à la recherche des 4 exemplaires distribués. Quand les 100 exemplaires furent réunis, comptés, feuilletés avec soin et vérifiés, le roi les jeta lui-même au feu, sauf un qu'il conserva par-devers lui. Puis il chargea le capitaine des gardes de conduire l'auteur du livre à M. de Saint-Mars, lequel Saint-Mars enferma son prisonnier d'abord à Pignerol, puis dans la forteresse de l'île Sainte-Marguerite. Cet homme n'était autre, évidemment, que le fameux homme au masque de fer. Jamais la vérité n'eût été connue, ou du moins une partie de la vérité, si le capitaine des gardes qui avait assisté à l'entrevue, profitant d'un moment où le roi s'était détourné, n'avait eu la tentation de retirer de la cheminée, avant que le feu ne l'atteigne, un autre des exemplaires. 6 mois après, ce capitaine fut ramassé sur la grande route de Gaillon à Mantes. Ses assassins l'avaient dépouillé de tous ses vêtements, oubliant dans sa poche droite un bijou que l'on y découvrit par la suite, un diamant de la plus belle eau, d'une valeur considérable. Dans ses papiers, on retrouva une note manuscrite. Il n'y parlait point du livre arraché aux flammes, mais il donnait un résumé des premiers chapitres. Il s'agissait d'un secret qui fut connu des rois d'Angleterre, perdu par eux au moment où la couronne du pauvre fou Henri VI passa sur la tête du duc d'York, dévoilée au roi de France Charles VII par Jeanne d'Arc, et qui, devenu secret d'État, fut transmis de souverain en souverain par une lettre chaque fois recachetée que l'on trouvait au lit de mort du défunt avec cette mention « Pour le roi de France ». Ce secret concernait l'existence et déterminait l'emplacement d'un trésor formidable possédé par les rois et qui s'accroissait de siècle en siècle. Mais, 114 ans plus tard, Louis XVI, prisonnier au Temple, prit à part l'un des officiers qui était chargé de surveiller la famille royale et lui dit « Monsieur, vous n'aviez pas sous mon aïeul le grand roi, un ancêtre qui servait comme capitaine des gardes ?»« Oui, sire. Eh bien, seriez-vous homme, il hésita. L'officier acheva la phrase. « À ne pas vous trahir ? Oh, sire ! Alors écoutez-moi. » Le roi tira de sa poche un petit livre dont il arracha l'une des dernières pages. Mais se ravisant, « Non, il vaut mieux que je copie. » Il prit une grande feuille de papier qu'il déchira de façon à ne garder qu'un petit espace rectangulaire sur lequel il copia 5 lignes de points, de lignes et de chiffres que portait la page imprimée. Puis, ayant brûlé celle-ci, il plia en 4 la feuille manuscrite, la cacheta de cire rouge et la lui donna. « Monsieur, après ma mort, vous remettrez cela à la reine et vous lui direz « De la part du roi, madame, pour votre majesté et pour son fils. » Et si elle ne comprend pas, vous ajouterez « Il s'agit du secret de l'aiguille. La reine comprendra. » Ayant parlé, il jeta le livre parmi les braises qui rougissaient dans l'âtre. Le 21 janvier, il montait sur l'échafaud. Il fallut 2 mois à l'officier, par suite du transfert de la reine à la conciergerie, pour accomplir la mission dont il était chargé. Enfin, à force d'intrigues sournoises, il réussit un jour à se trouver en présence de Marie-Antoinette. Il lui dit de manière qu'elle put tout juste entendre « De la part du feu roi, madame, pour votre majesté et son fils. » Et il lui offrit la lettre cachetée. Elle s'assura que les gardiens ne pouvaient la voir, brisa les cachets, sembla surprise à la vue de ces lignes indéchiffrables, puis tout de suite parut comprendre. Elle sourit amèrement et l'officier perçut ces mots. « Mais pourquoi si tard ?» Elle hésita. Où cacher ce document dangereux ? Enfin, elle ouvrit son livre d'heures et dans une sorte de poche secrète pratiquée entre le cuir de reliure et le parchemin qui le recouvrait, elle glissa la feuille de papier. « Pourquoi si tard ? » avait-elle dit. Il est probable en effet que ce document, s'il avait pu lui apporter le salut, arrivait trop tard, car au mois d'octobre suivant, la reine Marie-Antoinette, à son tour, montait sur l'échafaud. Or, cet officier, en feuilletant les papiers de sa famille, trouva la note manuscrite de son arrière-grand-père, le capitaine des gardes de Louis XIV. À partir de ce moment, il n'eut plus qu'une idée, c'est de se consacrer et de consacrer ses loisirs à élucider cet étrange problème. Il lut tous les auteurs latins, parcourut toutes les chroniques de France et celles des pays voisins, s'introduisit dans les monastères, déchiffra les livres de contes, les cartulaires, les traités, et il put ainsi retrouver certaines citations éparses à travers les âges. Au livre 3 des commentaires de César sur la guerre des Gaules, il est raconté qu'après la défaite de Viridovix par G. Titulus Sabinus, le chef des Calettes fut mené devant César et que, pour sa rançon, il dévoila le secret de l'aiguille. Le traité de Saint-Clair-sur-Epte, entre Charles le Simple et Roll, chef des barbares du Nord, fait suivre le nom de Roll de tous ses titres parmi lesquels nous lisons « Maître du secret de l'aiguille ». La chronique saxonne, édition de Gibson, page 134, parlant de Guillaume à la grande vigueur, Guillaume le Conquérant, raconte que la hampe de son étendard se terminait en pointe acérée et percée d'une fente à la façon d'une aiguille. Dans une phrase assez ambiguë de son interrogatoire, Jeanne d'Arc avoue qu'elle a encore une chose secrète à dire au roi de France. À quoi ses juges répondent « Oui, nous savons de quoi il est question, et c'est pourquoi, Jeanne, vous périrez. » « Par la vertu de l'aiguille », jure quelquefois le bon roi Henri IV. Auparavant, François Ier, haranguant les notables du Havre en 1520, prononça cette phrase que nous transmet le journal d'un bourgeois de Honfleur. « Les rois de France portent des secrets qui règlent la conduite des choses et le sort des villes. » Toutes ces citations, monsieur le directeur, tous les récits qui concernent le masque de fer, le capitaine des gardes et son arrière-petit-fils, je les ai retrouvés aujourd'hui dans une brochure écrite précisément par cet arrière-petit-fils et publiée en juin 1815, la veille ou le lendemain de Waterloo, c'est-à-dire en une période de bouleversement où les révélations qu'elle contenait devaient passer inaperçues. Que vaut cette brochure ? « Rien, me direz-vous, et nous ne devons lui accorder aucune créance. » C'est là ma première impression. Mais quelle ne fut pas ma stupeur en ouvrant les commentaires de César au chapitre indiqué d'y découvrir la phrase relevée dans la brochure. Même constatation en ce qui concerne le traité de Saint-Clair sur Epte. La chronique saxonne, l'interrogatoire de Jeanne d'Arc, bref. Tout ce qu'il m'a été possible de vérifier jusqu'ici. Enfin, il est un fait plus précis encore que relate l'auteur de la brochure de 1815. Pendant la campagne de France, officier de Napoléon, il sonna un soir son cheval ayant crevé à la porte d'un château où il fut reçu par un vieux chevalier de Saint-Louis. Et il apprit, coup sur coup, en causant avec le vieillard, que ce château, situé au bord de la Creuse, s'appelait le château de l'Aiguille, qu'il avait été construit et baptisé par Louis XIV, et que, sur son ordre express, il avait été orné de clochetons et d'une flèche qui figurait l'aiguille. Comme date, il doit porter encore 1680. 1680, un an après la publication du livre et l'emprisonnement du masque de fer. Tout s'expliquait. Louis XIV, prévoyant que le secret pouvait s'ébruiter, avait construit et baptisé ce château pour offrir aux curieux une explication naturelle de l'antique mystère. L'aiguille Creuse, un château à clocheton pointu situé au bord de la Creuse et appartenant au roi. Du coup, on croyait connaître le mot de l'énigme et les recherches cessaient. Le calcul était juste, puisque plus de deux siècles après, M. Bottrelet est tombé dans le piège. Et c'est là, monsieur le directeur, que je voulais en venir en écrivant cette lettre. Si Lupin, sous le nom d'André Fy, a loué à M. Valméras le château de l'Aiguille au bord de la Creuse, s'il a logé là ces deux prisonniers, c'est qu'il admettait le succès des inévitables recherches de M. Bottrelet et que, dans le but d'obtenir la paix qu'il avait demandée, il tendait précisément à M. Bottrelet ce que nous pouvons appeler le piège historique de Louis XIV. Et par là, nous sommes amenés à ceci, conclusion irréfutable, c'est que lui, Lupin, avec ses seules lumières, sans connaître d'autres faits que ceux que nous connaissons, est parvenu, par le sortilège d'un génie vraiment extraordinaire, à déchiffrer l'indéchiffrable document. C'est que Lupin, dernier héritier des rois de France, connaît le mystère royal de l'aiguille creuse. Là se terminait l'article. Mais depuis quelques minutes, depuis le passage concernant le château de l'aiguille, ce n'était plus Botrelet qui en faisait la lecture. Comprenant sa défaite, écrasé sous le poids de l'humiliation subie, il avait lâché le journal et s'était effondré sur sa chaise, le visage enfoui dans ses mains. Haletante et secouée d'émotion par cette incroyable histoire, la foule s'était rapprochée peu à peu et maintenant se pressait autour de lui. On attendait, avec une angoisse frémissante, les mots qu'il allait répondre, les objections qu'il allait soulever. Il ne bougea pas. D'un geste doux, Valméras lui décroisa les mains et releva sa tête. Isidore Botrelet pleurait. Chapitre 7. Le traité de l'aiguille creuse. Il est 4 heures du matin. Isidore n'est pas rentré au lycée. Il n'y rentrera pas avant la fin de la guerre sans merci qu'il a déclarée à Lupin. Cela, il se l'est juré tout bas, pendant que ses amis l'emportaient en voiture, tout défaillant et meurtri. Serment insensé, guerre absurde et illogique. Que peut-il faire, lui, enfant isolé et sans armes, contre ce phénomène d'énergie et de puissance? Par où l'attaquer? Il est inattaquable. Où le blesser? Il est invulnérable. Où l'atteindre? Il est inaccessible. 4 heures du matin. Isidore a de nouveau accepté l'hospitalité de son camarade de Janson. Debout devant la cheminée de sa chambre, les coudes plantés droit sur le marbre, les deux poings au menton, il regarde son image que lui renvoie la glace. Il ne pleure plus. Il ne veut plus pleurer, ni se tordre sur son lit, ni se désespérer comme il le fait depuis 2 heures. Il veut réfléchir, réfléchir et comprendre. Et ses yeux ne quittent pas ses yeux dans le miroir, comme s'il espérait doubler la force de sa pensée en contemplant son image pensive et trouver au fond de cet être-là l'insoluble solution qu'il ne trouve pas en lui. Jusqu'à 6 heures, il reste ainsi. Et c'est peu à peu que, dégagé de tous les détails qui la compliquent et l'obscurcissent, la question s'offre à son esprit, toute sèche, toute nue, avec la rigueur d'une équation. Oui, il s'est trompé. Oui, son interprétation du document est fausse. Le mot « aiguille » ne vise point le château des bords de la Creuse. Et de même, le mot « demoiselle » ne peut pas s'appliquer à Raymonde de Saint-Véran et à sa cousine, puisque le texte du document remonte à des siècles en arrière. Donc, tout est à refaire. Mais comment? Une seule base de documentation serait solide, le livre publié sous Louis XIV. Or, des 100 exemplaires imprimés par celui qui devait être le masque de fer, 2 seulement échappèrent aux flammes. L'un fut dérobé par le capitaine des gardes et perdu. L'autre fut conservé par Louis XIV, transmis à Louis XV et brûlé par Louis XVI. Mais il reste une copie de la page essentielle, celle qui contient la solution du problème, ou du moins la solution cryptographique, celle qui fut portée à Marie-Antoinette et glissée par elle sous la couverture de son livre d'heures. Qu'est devenu ce papier? Est-ce celui que Botrelet a tenu dans ses mains et que Lupin lui a fait reprendre par le greffier Brédoux? Ou bien se trouve-t-il encore dans le livre d'heures de Marie-Antoinette? Et la question revient à celle-ci. Qu'est devenu le livre d'heures de la reine? Après avoir pris quelques instants de repos, Botrelet interrogea le père de son ami, collectionneur émérite, appelé souvent comme expert à titre officieux, et que récemment encore, le directeur d'un de nos musées consultait pour l'établissement de son catalogue. « Le livre d'heures de Marie-Antoinette ? » s'écria-t-il. « Mais il fut légué par la reine à sa femme de chambre, avec mission secrète de le faire tenir au comte de Fersen. Pieusement conservé dans la famille du comte, il se trouve depuis 5 ans dans une vitrine. » « Dans une vitrine ? » « Du musée Carnavalet, tout simplement. »« Et ce musée sera ouvert ?»« Oui, dans 20 minutes. » À la minute précise où s'ouvrait la porte du vieil hôtel de Madame de Sévigné, Isidore sautait de voiture avec son ami. « Tiens, Monsieur Botrelet !» 10 voix saluèrent son arrivée. À son grand étonnement, il reconnut toute la troupe de reporters qui suivait l'affaire de l'aiguille creuse. Et l'un d'eux s'écria « C'est drôle, hein ? Nous avons tous eu la même idée. Attention !» Arsène Lupin est peut-être parmi nous. » Ils entrèrent ensemble. Le directeur, aussitôt prévenu, il se mit à leur entière disposition, les mena devant la vitrine et leur montra un pauvre volume sans le moindre ornement et qui n'avait certes rien de royal. Un peu d'émotion tout de même les envahit à l'aspect de ce livre que la reine avait touché en des jours si tragiques, que ses yeux rougis de larmes avaient regardé. Et ils n'osaient le prendre et le fouiller, comme s'ils avaient eu l'impression d'un sacrilège. « Voyons, Monsieur Botrelet, c'est une tâche qui vous incombe !» Il prit le livre d'un geste anxieux. La description correspondait bien à celle que l'auteur de la brochure en avait fait. D'abord, une couverture de parchemin, parchemin sali, noirci, usé par place et, au-dessous, la vraie reliure en cuir rigide. Avec quel frisson Botrelet s'enquit de la poche dissimulée. Était-ce une fable? Ou bien retrouverait-il encore le document écrit par Louis XVI et légué par la reine à son ami Fervent? À la première page, sur la partie supérieure du livre, pas de cachette. « Rien ? » murmura-t-il. « Rien ? » redit-il en écho, palpitant. Mais à la dernière page, ayant un peu forcé l'ouverture du livre, il vit tout de suite que le parchemin se décollait de la reliure. Il glissa les doigts. Quelque chose, oui, il sentit quelque chose, un papier. « Oh ! » fit-il victorieusement. « Voilà ! Est-ce possible ?» « Vite, vite !» lui cria-t-on. « Qu'attendez-vous ? » Il tira une feuille pliée en deux. « Eh bien, lisez ! Il y a des mots à l'encre rouge. Tenez, on dirait du sang. Du sang tout pâle. Mais lisez donc !» Il lut. « À vous, Fersen, pour mon fils, 16 octobre 1793, Marie-Antoinette. » Et soudain, Botrelet poussa une exclamation de stupeur. sous la signature de la reine, il y avait à l'encre noire deux mots soulignés d'un paraphe, deux mots « Arsène Lupin ». Tous, chacun à son tour, ils saisirent la feuille et le même cri échappé aussitôt. « Marie-Antoinette, Arsène Lupin ?» Un silence les réunit. Cette double signature, ces deux noms accouplés, découverts au fond du livre d'heures, cette relique où dormait depuis plus d'un siècle l'appel désespéré de la pauvre reine, cette date horrible, 16 octobre 1793, jour où tomba la tête royale, tout cela était d'un tragique, morne et déconcertant. Arsène Lupin, balbutia l'une des voix, soulignant ainsi ce qu'il y avait d'effarant à voir ce nom diabolique au bas de la feuille sacrée. « Oui, Arsène Lupin, » répéta Botrelet. « L'ami de la reine n'a pas su comprendre l'appel désespéré de la mourante. Il a vécu avec le souvenir que lui avait envoyé celle qu'il aimait, et il n'a pas deviné la raison de ce souvenir. Lupin lui a tout découvert, lui, et il a pris. » « Il a pris quoi ?»« Le document, parbleu ! Le document écrit par Louis XVI ?» Et c'est cela que j'ai tenu entre mes mains. Même apparence, même configuration, même cachet rouge. Je comprends pourquoi Lupin n'a pas voulu me laisser un document dont je pouvais tirer parti par le seul examen du papier, des cachets, etc. Et alors, puisque le document dont je connais le texte est authentique, puisque j'ai vu la trace des cachets rouges, puisque Marie-Antoinette elle-même certifie par ce mot de sa main que tout le récit de la brochure reproduite par M. Massiban est authentique, puisqu'il existe vraiment un problème historique de l'aiguille creuse, je suis sûre de réussir. Et comment ? Authentique ou non, le document, si vous ne parvenez pas à le déchiffrer, il ne sert à rien puisque Louis XVI a détruit le livre qui en donnait l'explication. « Oui, mais l'autre exemplaire, arraché aux flammes par le capitaine des gardes du roi, Louis XIV, il n'a pas été détruit. »« Qu'en savez-vous ? Eh bien, prouvez le contraire. » Botrelet se tut. Puis, lentement, les yeux clos comme s'il cherchait à préciser et à résumer sa pensée, il prononça. Possesseur du secret, le capitaine des gardes commence par en livrer des parcelles dans le journal que retrouve son arrière-petit-fils. Puis le silence. Le mot de l'énigme. Il ne le donne pas. Pourquoi ? Parce que la tentation d'user du secret s'infiltre peu à peu en lui et qu'il y succombe. La preuve, son assassinat. La preuve, le magnifique joyau découvert sur lui et que, indubitablement, il avait tiré de tel trésor royal dont la cachette, inconnue de tous, constitue précisément le mystère de l'aiguille creuse. Lupin me l'a laissé entendre. Lupin ne mentait pas. De sorte, Botrelet, que vous concluez. Je conclus qu'il faut faire, autour de cette histoire, le plus de publicité possible et qu'on sache par tous les journaux que nous recherchons un livre intitulé « Le traité de l'aiguille ». Peut-être le dénicherons-nous au fond de quelques bibliothèques dans la province. Tout de suite, la note fut rédigée. Tout de suite, sans même attendre qu'elle pût produire un résultat, et Botrelet se mit à l'œuvre. Un commencement de piste se présentait. L'assassinat avait eu lieu aux environs de Gaillon. Le jour même, il se rendit dans cette ville. Certes, il n'espérait point reconstituer un crime perpétré 200 ans auparavant, mais tout de même, il est certain, forfait, qu'il laisse des traces dans les souvenirs et dans les traditions du pays. Les chroniques locales les recueillent. Un jour, tel érudit de province, Tel amateur de vieilles légendes, tel évocateur des petits incidents de la vie passée, en fait l'objet d'un article de journal ou d'une communication à l'académie de son chef-lieu. Il en vit 3 ou 4 de ces érudits. Avec l'un d'eux surtout, un vieux notaire, il fureta, il compulsa les registres de la prison, les registres des anciens bailliages et des paroisses. Aucune notice ne faisait allusion à l'assassinat d'un capitaine des gardes au XVIIe siècle. Il ne se découragea pas et continua ses recherches à Paris, où peut-être avait eu lieu l'instruction de l'affaire. Ses efforts n'aboutirent pas. Mais l'idée d'une autre piste le lança dans une direction nouvelle. Était-il impossible de connaître le nom du capitaine des gardes dont le petit-fils émigra et dont l'arrière-petit-fils servit les armées de la République, en fut détaché au temple pendant la détention de la famille royale. Il servit Napoléon et fit la campagne de France. À force de patience, il finit par établir une liste où 2 noms, tout au moins, offraient une similitude presque complète. Monsieur de Larbéry, sous Louis XIV, le citoyen Larbry, sous la Terreur. C'était déjà un point important. Il le précisa par un entrefilet qu'il communiqua aux journaux, demandant si on pouvait lui fournir des renseignements sur ce Larbéry ou sur ses descendants. Ce fut M. Massiban, le Massiban de la brochure, le membre de l'Institut, qui lui répondit. « Monsieur, je vous signale un passage de Voltaire que j'ai relevé dans son manuscrit du siècle de Louis XIV, chapitre 25. Particularité et anecdote du règne. Ce passage a été supprimé dans les diverses éditions. J'ai entendu conter à feu M. de Caumartin, intendant des finances et ami du ministre Chamillard, que le roi partit un jour précipitamment dans son carrosse à la nouvelle que M. de Larbéry avait été assassiné et dépouillé de magnifiques bijoux. Il semblait dans une émotion très grande et répétait « Tout est perdu, tout est perdu !» L'année suivante, le fils de ce Larbéry et sa fille, qui avaient épousé le marquis de Vélines, furent exilés dans leurs terres de Provence et de Bretagne. Il ne faut pas douter qu'il y ait là quelques particularités. Il faut en douter d'autant moins, ajouterai-je, que M. Chamillard, d'après Voltaire, fut le dernier ministre qui eut l'étrange secret du masque de fer. Vous voyez, monsieur, le profit que l'on peut tirer de ce passage et le lien évident qui s'établit entre les deux aventures. Je n'ose, quant à moi, imaginer des hypothèses trop précise sur la conduite, sur les soupçons, sur les appréhensions de Louis XIV en ces circonstances. Mais n'est-il pas permis d'autre part, puisque M. de Larbéry a laissé un fils qui fut probablement le grand-père du citoyen officier Larbry et une fille, n'est-il pas permis de supposer qu'une partie des papiers laissés par Larbéry est échue à la fille et que parmi ces papiers se trouvait le fameux exemplaire que le capitaine des gardes sauva des flammes. J'ai consulté l'annuaire des châteaux. Il y a, aux environs de Rennes, un baron de Vélines. Serait-ce un descendant du marquis? À tout hasard, hier, j'ai écrit à ce baron pour lui demander s'il n'avait pas en sa possession un vieux petit livre dont le titre mentionnerait ce mot de l'aiguille. J'attends sa réponse. J'aurai la plus grande satisfaction à parler de toutes ces choses avec vous. Si cela ne vous dérange pas trop, venez me voir, agréez monsieur, etc., etc. Postscriptum. Bien entendu, je ne communique pas aux journaux ces petites découvertes. Maintenant que vous approchez du but, la discrétion est de rigueur. C'était absolument l'avis de Botrelet. Il alla même plus loin. 2 journalistes le harcelant ce matin-là, il leur donna des informations les plus fantaisistes sur son état d'esprit et sur ses projets. L'après-midi, il courut en hâte chez Massiban, qui habitait au numéro 17 du quai Voltaire. À sa grande surprise, il apprit que Massiban venait de partir à l'improviste, lui laissant un mot au cas où il se présenterait. Isidore Descachetas élu, je reçois une dépêche qui me donne quelque espérance. Je pars donc et coucherai à Rennes. Vous pourriez prendre le train du soir et sans vous arrêter à Rennes, continuer jusqu'à la petite station de Vélines. Nous nous retrouverions au château, situé à 4 km de cette station. Je ne reprendrai pas les différents textes selon quelques phrases, mais deux seulement. Les rois de France portent des secrets que règlent des choses et le sort des villes. Autre phrase qui parle aussi. Lupin, sous le nom de Anfredi, a loué à M. Valméras le château de l'Aiguille au bord de la Creuse pour y loger ses prisonniers. Il tendait précisément à M. Botrelet ce que nous pouvons appeler le piège historique de Louis XIV. Lupin connaît le mystère royal de l'Aiguille Creuse et Botrelet en a pleuré. Notre prochaine lecture nous éclairera sur l'historique de ce traité de l'Aiguille Creuse. Mais n'oubliez pas, chers auditeurs, la suite de l'histoire, ce sera pour vous dans l'émission « Je lis pour vous » sur Radio Alliance Plus. À bientôt !